tout de suite, retrouvons la chronique Histoire de cinéma de Jean-Philippe Gunet.
Sorti le 29 novembre dernier, Coco est un gros succès au box-office, avec 550 millions de dollars à travers le monde et 3,5 millions de spectateurs en France. Cette réussite artistique et commerciale, c'est celle du studio Pixar, les maîtres du cinéma d'animation en images de synthèse. Le cinéma d'animation, c'est un secteur où se distinguent les Japonais du studio Ghibli, mais qui est tout de même dominé par les géants hollywoodiens, Pixar, Disney, DreamWorks, les producteurs de Shrek, et Blue Sky, les producteurs de L'Âge de Glace et Rio. Disney est propriétaire de Pixar depuis 2006 et a racheté Blue Sky en décembre 2017, ce qui veut dire qu'elle exerce un quasi-monopole. Mais cette concentration n'est pas une fusion, chaque firme garde son identité. L'histoire de Pixar commence en 1974 lorsque le fondateur de l'Institut de technologie de New York crée un laboratoire d'infographie. Parmi les premiers ingénieurs recrutés se trouve un certain Edwin Catmull qui sera plus tard cofondateur et président de Pixar. La toute nouvelle équipe n'a pas les moyens financiers de ses ambitions. En 1979, George Lucas, fort du succès de Star Wars, les approche et leur propose de travailler pour son propre studio, Lucasfilm. Six acceptent, dont Ed Catmull, et rejoignent donc la division infographie de Lucasfilm. George Lucas veut moderniser les techniques du cinéma et les faire passer à l'ère du numérique. Les ingénieurs qu'il a recrutés travaillent sur un programme de création de personnages par ordinateur. C'est le précurseur de RenderMan, le futur outil de travail de Pixar. Le début des années 80, c'est l'époque des premiers courts-métrages avec une équipe qui grimpe à 40 personnes. Parmi eux, John Lasseter, embauché en 1984 comme concepteur d'interface. À ce moment-là, George Lucas a des problèmes de trésorerie, dus à son divorce, à la baisse des revenus de Star Wars et à l'échec commercial du film Howard, une nouvelle race de héros. Il décide de vendre la division infographie de Lucasfilm à Steve Jobs, alors parti de chez Apple. En avril 1986, Jobs en fait une entreprise indépendante baptisée Pixar. Ed Catmull et l'infographiste Alvy Ray Smith sont les cofondateurs. Ed Catmull en prend la présidence. Si l'équipe de Pixar rêve de faire des films d'animation, ils sont d'abord des concepteurs de matériel informatique haut de gamme, vendus à des services gouvernementaux et au secteur médical. Sous l'impulsion de John Lasseter, le département animation travaille sur de nouveaux courts-métrages et des publicités. Le premier court estampillé Pixar, Luxo Junior, marque les débuts de John Lasseter comme réalisateur. Sorti en 1986, il raconte l'histoire de deux lampes de bureau qui s'amusent avec une balle. Elles sont suffisamment expressives pour être acceptées comme des personnages. Artistiquement parlant, c'est le moment fondateur. La petite lampe qui saute deviendra le symbole de Pixar. Dès ses débuts, Pixar noue un partenariat avec Disney. La mise au point des outils demande plusieurs années, notamment celle du fameux RenderMan. Autour de John Lasseter, des réalisateurs comme Pete Docter et Andrew Stanton viennent faire leurs premières armes. Pixar coûte néanmoins cher à Steve Jobs et connaît des passes difficiles. En 1991, un accord est conclu avec Disney qui distribuera trois longs-métrages Pixar. Il faut attendre 1995 pour que le premier soit finalisé. Il s'appelle Toy Story. Sorti en novembre 1995, il raconte les aventures des jouets de la chambre d'un petit garçon qui prennent vie aussitôt qu'il quitte la pièce. Réalisé par John Lasseter, Toy Story est le premier film entièrement en images de synthèse. Le pari de Pixar est gagnant. Toy Story séduit par sa réussite technique, son sens du divertissement, son humour et ses clins d'œil cinématographiques. Le film engrange 370 millions de dollars à travers le monde, un succès qui sauve Pixar des risques de faillite. Le système Renderman est enfin au point, les images sont superbes avec un rendu particulièrement fin et des couleurs vives. Installé à Emeryville, près de San Francisco, Pixar enchaîne en 1998 avec Mille et une pattes, co-réalisé par John Lasseter et Andrew Stanton. Le film est un nouveau succès, avec 360 millions de dollars au box-office. En 1999, John Lasseter signe Toy Story 2, une suite encore meilleure que l'original, qui cartonne avec près de 500 millions de dollars. En seulement 3 longs métrages, Pixar a imposé un nouveau style. Comme prévu, ces films sont distribués par Disney, ce qui permet à des personnages comme Buzz l'éclair et Woody le cowboy de devenir des objets de la vie quotidienne. Le quatrième film Pixar, c'est Monstres et compagnie, réalisé par Pete Docter en 2001. 2 ans plus tard, c'est le tour du monde de Nemo, avec Andrew Stanton et Lee Unkrich aux commandes. Sorti en 2004, Les Indestructibles, de Brad Bird, est une relecture brillante des histoires de super-héros. La méthode Pixar, c'est que les différents cinéastes soumettent leurs idées les uns aux autres, jusqu'à ce que l'un d'eux se lance pour faire son film. Chaque réalisateur est assisté d'un ou deux co-réalisateurs, et la projection en salle de chaque long métrage Pixar est précédée d'un cours qui permet à de nouveaux cinéastes de faire leurs preuves. Malgré l'énorme succès commercial, les premières tensions entre Pixar et son distributeur Disney apparaissent. Un désaccord porte sur Toy Story 2, initialement prévu pour la vidéo. Pour respecter le contrat signé en 1991, Disney distribue finalement 6 films Pixar. Disney a aussi les droits exclusifs sur les histoires et les personnages, donc sur le marketing dérivé. Le contrat entre Disney et Pixar doit se terminer avec le 7e long métrage, Cars. Les négociations pour son renouvellement sont difficiles, au point que Steve Jobs fait savoir publiquement qu'il envisage un autre partenaire que Disney. Le départ de Michael Eisner, PDG de Disney, et son remplacement par Bob Iger débloquent la situation. En mai 2006, Disney rachète Pixar. John Lasseter devient le directeur de la création de Pixar, comme de l'animation Disney. Si Pixar est désormais intégré à l'Empire Disney, les deux studios n'ont pas fusionné pour autant. Pixar reste une entité à part. La question qui se pose néanmoins, c'est de savoir si elle gardera sa liberté artistique. Sorti en mars 2006, Cars était déjà lancé bien avant le rachat par Disney. Réalisé par John Lasseter, c'est une œuvre aux accents personnels, peut-être pas la plus originale de Pixar, mais une nouvelle réussite. Ses personnages, des voitures qui parlent, sont entrés dans la culture populaire. En 2007, Brad Bird signe l'excellent Ratatouille. L'année suivante, c'est le chef-d'œuvre Wall-E. Réalisé par Andrew Stanton, il démarre par une heure sans dialogue, dans une ambiance post-apocalyptique, pour ensuite bifurquer vers un stupéfiant récit d'anticipation. Le tout avec une belle histoire d'amour entre deux robots. L'audace artistique est incroyable pour un film théoriquement destiné aux enfants. Le succès est à nouveau au rendez-vous. La créativité de Pixar est à son sommet. Réalisé par Pete Docter en 2009, Là-haut est une œuvre émouvante qui renverse la mode du jeunisme. En 2010, Lee Unkrich signe Toy Story 3, qui réussit à prolonger la verve et l'humanité des deux premiers volets. C'est avec Cars 2, sorti en 2011, que Pixar donne ses premiers signes d'essoufflement artistique. John Lasseter est à la réalisation, mais le film est une tentative maladroite de mélanger un univers à la James Bond avec les courses automobiles. En 2012, Rebelle est un sympathique plaidoyer pour le droit à la différence qui résonne étrangement comme un appel de Pixar pour continuer d'exister dans l'empire Disney. L'année suivante, Monstre Academy permet de retrouver les personnages de Monstres et compagnie. Malgré ses qualités techniques, il peine à s'élever au-dessus d'un bon divertissement. Le succès commercial est toujours là, mais le génie créatif ne revient qu'en 2015 avec Vice Versa, le 15e long métrage. À nouveau réalisé par Pete Docter, ce film réussit un défi impensable sur le papier, faire vivre à l'écran les émotions humaines et faire comprendre dans un récit aussi limpide que touchant comment fonctionne le cerveau. Vice Versa n'a rien d'une démonstration scientifique. C'est un film de personnages immensément humains qui rend accessible des réalités pourtant impalpables. Après un tel coup de maître, pas facile d'enchaîner, Pixar sort tout de même Le Voyage d'Arlo en 2015, Le Monde de Dory en 2016, puis Cars 3 en 2017. Le 21 novembre 2017, en pleine vague de scandales sexuels à Hollywood, John Lasseter reconnaît avoir eu des gestes inappropriés envers ses collaboratrices et se met spontanément en congé sabbatique de Pixar comme de Disney pour 6 mois. Dans un mémo interne cité par le Hollywood Reporter, il dit « J'ai toujours voulu que nos studios d'animation soient un endroit où les créateurs puissent explorer leur vision avec le soutien et la collaboration d'autres animateurs et conteurs de talents. Cette culture créative ne peut être maintenue qu'au prix d'une vigilance constante. Elle est bâtie sur la confiance et le respect et sera fragilisée aussitôt qu'un seul membre de l'équipe ne se sent plus valorisé. » En tant que chef, c'est ma responsabilité de m'assurer qu'un tel cas de figure ne se produise pas, et j'estime aujourd'hui avoir failli dans ce domaine. S'il est trop tôt pour dire si le départ de John Lasseter est provisoire ou définitif, l'héritage artistique de Pixar, lui, va perdurer. La meilleure preuve, c'est l'éclatante réussite de Coco, le 19e long métrage, signé Lee Unkrich.
C'était Histoire de cinéma par Jean-Philippe Gunet, une chronique que vous pouvez retrouver les mardis et jeudis à 9h et 15h sur Art District.